Alors ce soir, on aura Fabien Perrier, le journaliste, pour nous parler de la situation sur l'Aquarius, parce qu'il se trouve qu'il était, il y a quelques jours encore, à naviguer au large de la Libye, qu'il est rentré, il a pu rentrer, l'Aquarius avait accosté à Catane quand il est revenu. Et alors aujourd'hui, ben, on sait très bien que la situation est un peu plus compliquée, donc il nous racontera un peu la vie à bord donc de ce bateau, l'Aquarius, qui est affrété par SOS Méditerranée.
Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi, oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre, oh non, excepté la vie.
On devrait avoir au téléphone Fabien Perrier. Fabien Perrier qui est donc qui a quitté l'Aquarius et qui est à Athènes et qui était il y a quelques semaines encore justement sur l'Aquarius. Et on avait fait cette petite accroche au moment où il nous avait envoyé une petite carte postale sonore autour de la naissance de Miracle. Et alors là, on est dans une ambiance un peu différente aujourd'hui. Mais peut-être que Fabien, avant de nous parler de la situation actuelle, tu pourrais revenir sur... Mais justement, sur la façon dont se déroule une campagne de sauvetage sur l'Aquarius.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, oui, ça va, ça marche. Je peux revenir un petit peu, je peux expliquer. C'est-à-dire que ce qui est intéressant sur ce bateau, qui est un bateau hôpital, un navire hôpital, c'est qu'il y a régulièrement des entraînements. Quand les volontaires viennent à bord, ils sont préparés à réaliser des sauvetages. Ils sont préparés en pleine mer. On apprend à mettre les barques d'embarquement à l'eau, à descendre par des échelles de marins. Ça, c'est pour la partie sauvetage direct. Et puis, ce qui se passe après le sauvetage. Quand j'étais sur l'Aquarius, il y a encore quelques jours, il n'y a pas eu de sauvetage dramatique, mais il peut arriver qu'il y ait besoin de faire des massages cardiaques, voire de sortir des personnes mortes de l'eau. Et donc, tout ça... c'est plutôt la partie qui est confiée à MSF, Médecins Sans Frontières, le partenaire de SOS Méditerranée, sur ce bateau. Donc voilà. Alors comment ça se passe concrètement? Je vais essayer d'expliquer. En général, ça commence par une alerte. Les talkie-walkie dont sont équipés les différents volontaires crépitent. On entend... en anglais, SOS Team, get ready for rescue. SOS, équipe d'SOS, préparez-vous pour un sauvetage. Là, quoi qu'ils soient en train de faire, ils abandonnent tout sur le champ. Qu'on soit en train de boire du café ou en train de papoter ou en train de travailler, on arrête tout. On va chercher son casque, son gilet de sauvetage, sa combinaison. Et on se retrouve sur le pont où les barques de sauvetage dont je parlais tout à l'heure sont mises à l'eau. Pendant ce temps-là, les équipes de MSF se préparent, elles, à devoir éventuellement intervenir. Donc, elles sortent les civières, elles sortent des perfusions, elles sortent de l'oxygène. Enfin, bref, tout le nécessaire est placé sur le pont. Et dans chacune des barques, dans chacun des Zodiacs, embarquent ensuite 4 personnes plus... j'ai un trou de mémoire, 3 personnes plus une personne de MSF au cas où il y ait besoin d'une intervention directe dans le sauvetage dans le Zodiac de sauvetage. Voilà.
Oui, parce qu'effectivement, en fait, ce n'est pas l'Aquarius qui va directement vers les Zodiacs, vers les bateaux des migrants. Il y a des petits bateaux qui vont sauver. Donc
c'est
vraiment des protocoles assez compliqués et qui ne sont pas non plus évidents et qui sont aussi dangereux à la fois pour les sauveteurs et à la fois pour les migrants.
Et à la fois pour les migrants. L'Aquarius, c'est un bateau de 77 mètres. Donc évidemment, on ne peut pas aller accoster un canot en caoutchouc, hein, de mauvaise qualité avec un bateau comme ça. Donc c'est des zodiacs qui s'approchent, qui sont, comme je disais, qui sont en permanence sur l'Aquarius et que l'on descend par des grues. Et eux s'approchent. Et là, il y a une autre, il y a un danger. C'est d'abord celui de l'état même du bateau sur lequel les migrants sont. Il arrive même assez souvent que le gasoil coule, donc qu'il y ait des gens qui sont brûlés, puisqu'ils ont resté plusieurs heures dans ces canaux en plastique, et le mélange eau de mer et gasoil brûle très fortement. Il peut aussi arriver, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait des personnes qui ne sont plus forcément conscientes, donc il faut être en capacité de les sortir du canot sur lequel ils sont pour les mettre dans les canots de sauvetage. Donc ça, c'est une première difficulté. Puis la deuxième difficulté, qui cette fois est de ce que j'ai pu voir à peu près constante, c'est qu'en réalité, les migrants ont peur. Ils ont peur d'être interceptés par les gardes-côtes libyens. Ils ont peur de la façon dont ils vont être reçus. Il y a parfois un peu de panique ou d'inquiétude à bord des petits canots de sauvetage, qui peuvent tout à fait faire basculer d'une minute à l'autre le sauvetage en quelque chose de catastrophique.
Eux, ils ne savent pas exactement où ils arrivent finalement, puisqu'en fait, tous ces sauvetages se passent en zone internationale, donc c'est pas près des côtes.
En fait, c'est plus exactement, il y a trois zones. Il y a une zone de 12 000 nautiques depuis la côte qui appartient, pour ce cas, à la Libye, donc qui est sous le contrôle des gardes-côtes libyens. Ça, c'est les eaux territoriales. Ensuite, il y a les eaux contiguës qui sont jusqu'à 24 000, donc 12 000 nautiques supplémentaires, où là, si le centre qui coordonne les opérations qu'on appelle le MRCC délègue l'Aquarius pour aller intervenir. L'Aquarius peut aller faire des sauvetages dans cet espace, mais sinon, l'essentiel s'effectue au-delà des 24 000 nautiques.
Et alors,
donc, dans les eaux internationales.
Ouais. Et alors, une fois arrivés à bord de l'Aquarius, comment sont prises en charge les migrants?
Ils sont pris en charge d'abord dans les canaux de sauvetage, hein, immédiatement. Ils ont des gilets de sauvetage, on leur donne des gilets de sauvetage, on les transborde sur les petits rafiaux et ensuite sur les petits zodiacs, pardon, depuis leur rafiaux. Et ensuite, on les envoie vers l'Aquarius. Ils grimpent à bord de l'Aquarius et là, les équipes de MSF interviennent. Donc déjà, elles leur disent bonjour, elles leur donnent très vite de quoi manger et entre-temps il y a un éboire et entre-temps il y a le médecin qui fait une première vérification de leur vraiment rapide hein, de leur état de santé et qui aussi, ça va vous paraître très bizarre, mais sans pour voir s'il n'y a pas des gens qui ont eu trop de gasoil qui s'est imprégné et avec un danger de brûlure qui persisterait. Et une fois qu'ils sont donc à bord, qu'ils ont été rapidement vérifiés, ils doivent se changer. Donc tous les vêtements sont jetés, ils ont le temps de prendre comme une douche à bord pour se rincer des impuretés, enfin de ce mélange dont je parlais. Et ensuite, donc, ils ont à manger et à boire.
Et quelle était l'ambiance une fois qu'ils se sont sentis un peu plus en sécurité?
L'ambiance quand ils sont à bord est très fluctuante. C'est-à-dire que quand ils arrivent, il faut imaginer déjà qu'ils ont passé plusieurs heures en mer sans avoir à boire, sans avoir à manger. Donc ils sont épuisés. Et ils sont souvent même déshydratés. Donc ça, c'est l'état quand ils arrivent. La deuxième chose, c'est que quand ils sont à bord, il y a un premier soulagement, mais en même temps une énorme fatigue. Donc très vite, une fois qu'ils ont mangé, les gens dorment. Et ensuite, il y a comme des scènes d'euphorie. C'est assez bizarre, je pense que c'est qu'on peut le comprendre hein, quand on est sauvé des eaux et de tout ce qu'on a vécu avant même de quitter la Libye. Il y a des scènes d'euphorie où parfois ils dansent, ou parfois ils prient, ou parfois ils... Voilà. Mais très vite, une fois ces scènes de bonne humeur passées, c'est de nouveau l'interrogation, l'angoisse qui prennent le pas sur, sur ces moments de détente.
Et alors toi, quand tu étais sur l'Aquarius, donc c'était il y a quelques jours, vous aviez pu accoster à Catane, en Italie. Et à ce moment-là, c'était les autorités italiennes qui prenaient en charge ces migrants ?
En fait, nous avons accosté à deux endroits. Un premier endroit à Catane, ça c'est quand le miracle est arrivé à bord. Et la deuxième fois à Pozzallo, un peu plus à l'ouest. C'était la veille d'une visite du fameux Matteo Salvini, hein, le chef de la Ligue du Nord, donc un parti très d'extrême droite, hein, d'extrême droite très extrême, devenu vice-premier ministre italien et ministre de l'Intérieur. Donc la veille de sa visite en Sicile, le bateau Aquarius a eu comme port pour débarquer les 168 migrants à bord à Pozzallo. Et là, c'est toujours un peu le même processus. C'est-à-dire qu'en réalité, les ports sont extrêmement militarisés pour débarquer les migrants. Il y a Frontex, hein, l'agence européenne en charge des frontières, les gardes-côtes, la police. On n'a pas le droit de circuler comme on veut dans les espaces où les migrants descendent. Il y a la Croix-Rouge. Et en fait, immédiatement, quand ils descendent de l'Aquarius, les migrants sont photographiés, leur nom est pris. Ils sont en fait enregistrés et ensuite ils sont dirigés vers des hotspots. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les hotspots.
Vas-y.
Allô ?
Ouais, tu peux continuer sur les hotspots.
Je vais expliquer rapidement. Les hotspots sont des centres de tri, en fait, mis en place par l'Union européenne en 2016, de mémoire. Et là, les migrants sont triés entre réfugiés et migrants économiques. Parce qu'il faut savoir que l'Union européenne accepte à peu près des migrants, des réfugiés, mais rejette à peu près tous les migrants économiques. C'est-à-dire que on considère que les gens n'ont pas besoin de venir dans cette Europe telle qu'elle est construite. Et donc c'est dans ces centres, les hotspots, qu'ils vont être triés, mais souvent ils y restent plusieurs semaines, voire plusieurs mois en fait.
Effectivement. Depuis, la situation a changé, puisque lors de la dernière campagne, donc il y a vraiment juste quelques jours, quelques heures, l'Aquarius n'a pas pu accoster en Italie, puisque justement Salvini a interdit cet accostage. Après, Malte a aussi interdit. Donc finalement, l'Aquarius s'est détourné vers l'Espagne et vers Valence, avec à son bord 629 migrants, donc ce qui est quand même des sauvetages en nombre. En plus, j'ai l'impression que l'Aquarius n'est pas un bateau si gros que ça. Est-ce que tu as eu des retours, toi, depuis que tu es revenu à terre ?
Oui, parce que je suis toujours en contact avec certaines personnes à bord de bateau. La capacité de l'Aquarius, de ce que tout le monde me disait quand j'étais sur le bateau, est d'environ 550 personnes. Donc 629, ça fait 79 de plus. Mais la capacité de 550, c'est la capacité maximale. Donc 79 personnes en plus, quand on a déjà c'est très dur à gérer, c'est très dur nerveusement, les gens sont fatigués, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas forcément la quantité de nourriture à bord pour rester longtemps. C'est ce qui se passe actuellement sur l'Aquarius, hein, qui a dû être ravitaillé par les Maltais en l'occurrence. Donc ça, c'est une première difficulté. L'autre chose, c'est que, est-ce que dans la question, il y avait un mot qui m'a un peu interpellé, c'est la situation a changé. Personnellement, je ne pense pas que la situation ait changé. La situation est devenue plus aiguë, plus dramatique. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui est prévisible, était prévisible. D'une part, parce qu'il y a une politique européenne qui consiste à déléguer aux pays de frontaliers, comme l'Italie, comme la Grèce, la gestion des flux migratoires. Mais ça veut dire que, ou plutôt la conséquence de cette politique, c'est qu'ils doivent accueillir sur leur sol les migrants. L'Italie a accueilli 700 000 migrants depuis 2013. Il n'y a pas de répartition ensuite de ces migrants dans l'espace européen. Alors, quand on est dans des pays en crise comme la Grèce, comme l'Italie, les migrants sont des boucs émissaires faciles. Évidemment, quand l'extrême droite arrive, elle a, c'est du pain béni pour elle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que depuis plusieurs mois, les gouvernements italiens précédents exerçaient déjà une pression sur les organisations non gouvernementales. Un exemple, ils ont séquestré un bateau, donc mis sous séquestre un bateau d'ONG, vidant ainsi la zone de sa capacité à être surveillée, donc moins d'ONG peuvent effectuer des sauvetages. Et ce qui est très intéressant, c'est que le discours utilisé pour justifier ces séquestres, c'est que les ONG sont des passeurs. Mais les ONG n'ont jamais été des passeurs. Sur mon compte Twitter, par exemple, quelqu'un me répond, la côte la plus proche, c'est la côte... marocaine, algérienne, pardon, ou tunisienne, je ne sais plus laquelle il cite. Donc les ONG sont des passeurs puisqu'ils ne les ont pas renvoyés en Tunisie. Mais non, c'est pas ça la question. La question, c'est que les ONG font du sauvetage en mer. Les ONG ont pour mission d'apporter une aide humanitaire, donc de sauver l'humain. L'humain d'abord. Voilà, c'est pas autre chose que ça. Et après, il y a un droit international qui consiste à dire que l'Italie doit définir dans sa zone de contrôle des eaux un port sûr où les migrants, où les rescapés, parce que ça pourrait être la même question en réalité avec un bateau de plaisance qui coule en mer, donc où les rescapés doivent être débarqués. L'Italie aujourd'hui ne le fait plus parce que l'Italie estime, se sent complètement isolée dans la gestion de ces questions migratoires. Et je redis, c'est prévisible parce que c'est une conséquence des politiques européennes qui par ailleurs sont en train d'être renforcées exactement dans ce sens. Lors du sommet de Malte en 2017, les gouvernements européens se sont félicités du fait que l'Italie avait négocié avec la Libye un accord permettant aux gardes-côtes libyens de recevoir de l'argent pour intercepter des migrants en mer. Le problème, c'est que quand ils sont interceptés en mer, ils retournent ensuite en Libye. Écouter les migrants, entendre leur récit, fait froid dans le dos. Je vais te donner un exemple. Un jeune homme nous racontait que dans les prisons libyennes, il avait été mis avec des électrodes sur les bras, entouré en fait autour d'une barre et qu'on lui lançait des décharges électriques. Ce sont des scènes de torture qui sont régulièrement décrites. Est-ce que c'est ça la volonté de l'Union européenne de renvoyer donc dans ce type de pays des gens qui fuient la misère? Je pense que c'est une question qu'il faut poser.
Effectivement, d'ailleurs, SOS Méditerranée a besoin d'argent pour affréter l'Aquarius. Donc vous pouvez donner en tant qu'auditeur et auditrice de FPP. Et puis on peut lire aussi les papiers que tu as écrits sur ton expérience à bord de l'Aquarius. Tu as écrit pour Regard, pour Libération et juste ces derniers jours aussi pour Alternative Économique. Donc on mettra tous les liens vers notre site internet. Et on rappelle donc ton nom, Fabien Perrier. Et puis tu as aussi fait un peu de reportage sur Twitter, où on peut suivre aussi toutes les photos, les vidéos que tu as fait à bord.
Eh bien, c'est vrai. Et alors, il y a aussi un papier qui sort dans Marianne demain ou après-demain, un article qui sort justement sur ces questions en fait, la bataille diplomatique qui se joue autour de l'Aquarius actuellement, à la veille d'un sommet européen du 28 et 29 juin, qui a à son programme la question de la réforme de Dublin. Le règlement de Dublin est celui qui définit en fait les questions d'asile en Europe, le droit d'asile en Europe. Eh bien, il y a une réforme qui est en cours et le sens emprunté n'apparaît pas être celui d'une main tendue aux gens qui tentent de passer la Méditerranée.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir téléphoné, de nous avoir raconté ton expérience sur l'Aquarius.
Merci Juliette.
Et puis, on va te passer un petit clin d'œil musical puisque c'est Aller sans retour de Juliette et je sais que tu aimes bien.
Merci. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis, ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Allez sans retour, allez sans retour. J'oublierai cette heure où je crois mourir. Tous autour de moi se forcent à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Allez sans retour, allez sans retour. Que j'oublierai si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.